Un scrutin sanglant au Venezuela, 10 personnes tuées hier lors de l'élection de l'Assemblée constituante voulue par le président Maduro. Le gouvernement annonce 41% de taux de participation. L'opposition conteste et avance le chiffre de 12% seulement. Elle appelle à de nouvelles manifestations dès aujourd'hui. L'élection de cette Assemblée, qui doit réécrire la Constitution, met gravement en péril la démocratie selon l'opposition, alors que Washington annonce de prochaines sanctions économiques et dénonce un pas de plus vers la dictature. Le président Maduro souhaite d'ores et déjà la levée de l'immunité des parlementaires d'opposition. 755 diplomates américains devront quitter la Russie. C'est ce qu'a annoncé hier soir Vladimir Poutine à la télévision russe. Un pas de plus dans l'escalade des tensions diplomatiques entre Moscou et Washington. Le président russe donc reprend la main depuis Moscou. Les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revoin.
Les diplomates américains sont plus d'un millier à travailler actuellement à l'ambassade ou dans les différentes représentations consulaires des États-Unis en Russie, a déclaré Vladimir Poutine sur une chaîne de télévision publique. Cela signifie que 755 d'entre eux devront cesser leurs activités dans le pays, a laissé entendre le président russe. En représailles aux nouvelles sanctions américaines contre Moscou, le Kremlin avait annoncé qu'à partir du 1er septembre prochain, seuls 455 diplomates américains seraient autorisés à travailler en Russie, soit un nombre identique à celui des diplomates russes habilités à travailler sur le sol américain. Au préalable, Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, avait déclaré que Moscou répondrait de manière équivalente à toute nouvelle sanction américaine, laissant entendre que la Russie disposait d'une boîte à outils très riche en la matière, mais que cela porterait atteinte aux intérêts américains.
Jean-Didier Revoin, le correspondant de France Culture à Moscou. Sur le front diplomatique, les États-Unis et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont mis d'accord par téléphone. Ils s'inquiètent à nouveau de cette action de la Corée du Nord après le nouvel essai de missile mené vendredi par Pyongyang, un tir expérimental de missile balistique intercontinental qui pourrait atteindre les États-Unis. L'option militaire n'a toutefois pas été évoquée, précise le porte-parole du gouvernement japonais. Un policier saoudien tué, 6 autres blessés dans une attaque hier en Arabie Saoudite. Leur patrouille a été prise pour cible à Wamia, dans l'est du royaume, annonce le ministre de l'Intérieur ce matin. Une série d'attaques touche cette localité en majorité chiite. Depuis le mois de mai, la population s'insurge face à la destruction par les autorités des quartiers les plus anciens de la ville. La ministre des Armées est en déplacement au Sahel en ce moment. Florence Parly est attendue aujourd'hui sur la base française de Niamey au Niger. Demain, elle sera à Gao au Mali. Hier, au Tchad, la ministre des Armées a promis aux militaires de l'opération Barkhane des moyens contre les djihadistes et aucun impact sur le fonctionnement et l'entraînement des militaires, 2 semaines après la polémique sur la baisse du financement des forces armées françaises. Au Kenya, les forces de sécurité ont abattu un homme dans la résidence du vice-président kényan. Un policier a également été tué dans cette opération. Le domicile de William Ruto a été assiégé pendant près de 20 heures. La confusion règne encore sur les circonstances exactes. Il s'agirait d'une attaque lancée par un nombre inconnu d'hommes armés selon les sources sécuritaires sur place. En France, les députés entament ce matin leur dernière semaine dans l'hémicycle avant les vacances. Au programme aujourd'hui, le projet de loi d'habilitation de la réforme du Code du travail, examiné en commission mixte paritaire. Elle réunit donc sénateurs et députés. Mais le gouvernement a déjà confirmé qu'il y aura bien un barème obligatoire pour les indemnités des prud'hommes, un raccourcissement des délais de recours pour contester un licenciement et une simplification dans les ruptures conventionnelles, Laurent Kramer.
Il y a aujourd'hui trop de contentieux sur les licenciements en France, estime le ministère du Travail. Un licenciement a aujourd'hui une chance sur 5 de se retrouver devant les prud'hommes. Il faut donc désengorger les tribunaux et développer la culture de la conciliation, conclut le ministère. Le gouvernement souhaite alléger la fiscalité sur les ruptures conventionnelles. Il est aujourd'hui fiscalement plus avantageux de percevoir des indemnités devant les prud'hommes exonérées d'impôts qu'après une conciliation. Il faut donc mettre fin à cette prime fiscale aux contentieux. Avance l'entourage de la ministre. Bercy calcule le coût d'une exonération fiscale supplémentaire sur les indemnités versées à l'amiable. Le gouvernement estime enfin que les modalités de licenciement et les ruptures conventionnelles restent mal connues des employeurs et des salariés dans les petites et moyennes entreprises, ce qui augmenterait au final, estime le ministère, les contentieux. Le gouvernement souhaite donc mettre en place un nouveau document simplifié pour les procédures à suivre en cas de licenciement.
Les conclusions de la commission devraient être examinées à l'Assemblée demain et au Sénat jeudi. Les salariés de l'équipementier automobile GMES devraient être fixés sur leur sort cet après-midi. Le tribunal de commerce de Poitiers doit rendre sa décision sur la seule offre de reprise, celle de la société GMD, qui ne prévoit le maintien que 220 emplois sur les 277 du site de la Creuse. C'est une histoire qui évoque les Thénardier de Victor Hugo. Cette semaine, un couple a été arrêté en Indre-et-Loire et mis en examen. Ils avaient profité de la faiblesse d'un SDF de 59 ans pour en faire leur esclave, Fabien Fourel.
5 ans, 50 calvaires pour ce sans domicile fixe transformé en domestique corvéable à merci. En 2012, le couple de gens du voyage qui habite dans le secteur de Descartes en Indre-et-Loire accueille le SDF et lui offre le logis. Très vite, ils confisquent les papiers d'identité de leur nouveau prisonnier et l'obligent à devenir esclave. L'homme doit se lever plus tôt que ses maîtres pour être à leur disposition. Il fait le ménage, tond la pelouse, s'occupe des animaux, bricole, bref, toutes les corvées. Et comble de l'humiliation, l'ancien SDF doit se contenter des restes des repas de la famille pour manger. Il dort au fond du jardin, sur des coussins empilés dans une remorque de camion de 7 mètres cubes. Ses maîtres se font verser son RSA sur leur compte bancaire et ils l'emmènent au Resto du Cœur pour mieux lui piquer les denrées auxquelles il a droit. Oui, mais voilà, il y a quelques jours, le monsieur de 59 ans en a marre, il décide de porter plainte. Ses maîtres sont arrêtés, mis en examen pour traite d'êtres humains et placés sous contrôle judiciaire.
Fabien Fourel. Près de 150 personnes, en majorité des migrants, syriens pour la plupart, sont menacés d'expulsion dans l'Essonne. À Attis-Mons, ils vivent dans un quartier qui avait été laissé à l'abandon pendant des années. Depuis près de 3 ans, des dizaines de familles squattent des maisons, mais ce terrain appartient à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Elle a décidé de les chasser sans aucune solution de relogement. Une décision insensée pour le porte-parole de l'association Droit au Logement, Jean-Baptiste Hérault.
Pour nous, la meilleure solution, ça serait de les laisser dans ces maisons jusqu'à que le projet d'urbanisme qui, à un moment donné, va voir le jour, se mette en place. À partir de là, effectivement, il faudra trouver des solutions de relogement. Ce que je veux la DGAC, c'est assez bizarre, c'est que les locaux soient vidés, de telle sorte ensuite à moitié détruire ces maisons, raser ces maisons. C'est absurde, alors qu'il n'y a aucun projet d'urbanisme. On marche sur la tête. Il y a des maisons qui sont vides, qui sont habitables. Eh bien, il faut qu'elles restent habitables jusqu'à qu'elles soient remplacées par des immeubles, parce que au fond, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais si on laisse ces locaux comme ça vides, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce qui s'est passé avant l'arrivée des familles, c'est-à-dire que ce quartier va devenir un lieu de prostitution et de trafic de drogue. Et l'arrivée des familles sans logis a fait dégager ces trafics.
Propos recueillis par David Ravier. Ces familles de migrants seront fixées sur leur sort lors du jugement qui sera rendu le 5 septembre prochain. Le temps, de la pluie en allant de l'Alsace à l'Auvergne, un voile de nuages sur le nord et l'ouest du pays, du soleil au bord de la Méditerranée toute la journée. Pour les températures, 14 degrés au Havre, 17 à Nantes, 24 degrés à Nice. Pour cet après-midi, comptez 18 à 32 degrés du nord au sud. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun et Martin Descloseaux. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera avec le journal de midi et demi présenté par Antoine Marette.